carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Nous sommes aujourd'hui sur les traces du peintre Eugène Delacroix, dans l'atelier où il termine sa vie, rue de Fürstenberg à Paris. Et nous sommes en compagnie de Catherine Adam. Bonjour, merci de nous recevoir. Atelier, musée, cet endroit a vu passer nombre d'œuvres du peintre et nous offre une collection variée où nous trouvons bien entendu des peintures, bien connues d'ailleurs, mais aussi des objets plus insolites, d'Afrique du Nord notamment, des œuvres sur papier, des souvenirs, des autographes. Delacroix y passe des moments, semble-t-il, de grand bonheur, malgré des moment de maladie aussi. Aujourd'hui, il est ouvert au public et revit grâce notamment à une programmation de causeries dont nous reparlerons plus tard et à un endroit absolument charmant qui témoigne du passé mais aussi d'un présent toujours aussi glorieux. Alors cet endroit, Madame Adam, est stratégique car il se situe dans le cœur de Paris, non loin d'un quartier très parisien que connaît bien Eugène Delacroix, le quartier Saint-Sulpice.
Oui, effectivement, on est dans un très bel endroit parisien. Bon, Delacroix, de toute façon, a vécu sa jeunesse rive gauche, aux environs de rue de l'Université, rue de Grenelle. Il souhaite revenir dans le quartier de sa jeunesse. Il souhaite se rapprocher de l'église de Saint-Sulpice, où il avait reçu la commande du décor de la chapelle des Saints-Anges. Il réalise donc ces trois peintures qui sont très importantes pour l'histoire de son art. La lutte de Jacob et de l'ange, Héliodore et puis le Saint-Michel au plafond. Cette chapelle, moi j'engage tout le monde à aller la voir parce que c'est... On l'appelle le testament spirituel de Delacroix. Ce sont des peintures qui ne sont pas forcément faciles à comprendre, mais il faut vraiment prendre le temps d'entrer dans cette chapelle et regarder ces peintures qui s'opposent. Il y en a une qui est une scène d'intérieur, d'extérieur, mais Jacob et l'ange, bon, il y a tout le symbolisme. Delacroix s'identifie forcément à cette lutte. Et c'est une peinture aussi qui fait la synthèse de son art avec des réminiscences de ce qu'il a vu en Afrique du Nord. Mais ça, on le verra dans toutes ses œuvres à partir des années 1832. Mais ce qu'il a vu également à Champs-Rosay, dans sa maison de campagne qu'il avait près de la forêt de Draveil, parce qu'il admire les chênes, la forêt, la végétation francilienne. Donc c'est des peintures très complexes. Qui sont très différentes du Sardanapale ou de la Grèce en révolte ou de la liberté guidant le peuple, mais qui sont vraiment la synthèse de l'art de Delacroix à la fin de sa vie, qui est un mélange de réminiscences, un mélange qui sont très forts symboliquement.
Alors nous allons faire une petite visite du musée, mais avant de démarrer, pourriez-vous nous décrire un petit peu le personnage de Delacroix ? Qui était-il en quelques phrases ?
Delacroix, aux yeux du public, il est connu comme un dandy, fréquentant les salons, fréquentant le monde, étant bien habillé, faisant attention à sa personne. Ça, c'est vrai que c'est l'image de Delacroix, mais c'est l'image de Delacroix, finalement, jeune. Petit à petit, c'est un personnage qui va se retirer et s'isoler de plus en plus. Et quand il s'installe rue de Fürstenberg, il est plus sur le devant de la scène. C'est un artiste qui n'expose plus. Alors, il a toujours des commandes, mais de la part d'amateurs privés qui recherchent ses œuvres, qui lui demandent même des répliques. Donc, il est sans arrêt en train de travailler. Son travail, c'est quelque chose qui compte énormément pour lui. Il dit sans arrêt dans son journal, dans ses lettres... qu'il a énormément de choses à faire et que sans doute sa vie ne suffira pas. Bon, malheureusement, il est mort relativement jeune. Mais c'est un homme qui ne fréquente plus le monde, qui est isolé. Sa gouvernante, Jenny Le Guillou, qui était pendant plus de 35 ans à son service, barre aussi le passage aux gens qu'elle jugeait des intrus ou qui pouvaient fatiguer monsieur, comme elle le disait très souvent. Et vraiment, il se consacre qu'à sa peinture, qu'à son art. Delacroix, quand il fréquentait les salons, ou même certains contemporains, le décrivent comme, bien que finalement, ce soit un homme qui ait été de petite taille, parce que je crois qu'il mesure à peu près 1m65, mais il est décrit comme une personne ayant une belle prestance. Théophile Gautier parle de lui comme un maharaja venu des Indes, ayant reçu une éducation toute britannique. Il avait de l'allure, il avait quelque chose d'exotique, qui émanait de son physique. Il avait les pommettes un petit peu hautes, les yeux enfoncés, un regard fiévreux, très sombre, une chevelure abondante, légèrement ondulée. Et il avait une façon de se tenir qui faisait qu'on pensait qu'il était grand. Il y a d'autres contemporains qui l'ont comparé également à un félin. Ça, c'est quelque chose qui ressort assez fréquemment. Bon, le musée conserve un certain nombre d'œuvres de Delacroix, de lithographies où il représente des tigres, des lions, des félins. En ce moment, ce n'est pas le thème de notre accrochage, mais Delacroix est connu pour ce type de représentation et de nombreux contemporains ont noté ce visage félin, ses yeux ardents, fiévreux et cette attitude altière surtout.
Est-ce que Delacroix a connu le succès de son temps ?
Oui, même il a commencé jeune, Delacroix, il a fait ses études classiques au lycée Louis-le-Grand. Alors on conserve un certain nombre de cahiers de Delacroix. Au musée, on a un cahier de thèmes et de versions latin où on a des petits croquis en marge sur les pages, des petits essais de signature. Mais enfin, ça c'est un petit peu classique chez les adolescents. Mais au moment de la mort de sa mère, il avait 18 ans, il était donc orphelin, il avait perdu son père à l'âge de 7 ans. Il le dit dans son journal, il est obligé de travailler. Donc il se cherche un métier et il entre dans l'atelier de Guérin. Il décide de devenir peintre. Il est à ce moment-là ruiné. Sa famille, qui avait eu quelques biens, a tout perdu par suite de mauvaise gestion du patrimoine familial. Je n'entrerai peut-être pas dans les détails. Mais Delacroix est ruiné et on voit dans son journal, qui commence à cette époque, il compte, il est obligé, s'il emploie un modèle, il mangera un petit peu moins fastueusement, il compte. Mais finalement, assez rapidement, à partir du moment où il va exposer dans les salons, ses tableaux vont être relativement rapidement acquis par l'État. Et petit à petit, il va acquérir une aisance relativement confortable. En témoigne son installation au quartier Saint-Germain-des-Prés, qui même à l'époque notait une certaine aisance. Il était donc locataire de cet appartement au premier étage, qui donne entre cour et jardin, dans lequel donc il a pu construire son atelier. C'est lui-même qui en a donné les plans et qui a veillé à son décor. Il a entrepris un certain nombre de travaux qui ont été assez longs. Il y a à peu près 5-6 mois de travaux avant son installation rue de Fürstenberg, donc en décembre 1857.
Alors Delacroix était un voyageur. Bon, pour l'époque, il a voyagé, il est allé en Afrique du Nord, notamment au Maroc, si mes souvenirs sont bons. Comment s'est-il inspiré des sources parcourues dans le monde ?
Delacroix voyageur, je nuancerai un petit peu, parce qu'en fait, l'unique voyage, enfin les deux voyages qu'il ait réellement fait, c'était donc évidemment en Angleterre, où il a passé près de 6 mois, en 1825, et après il y a eu ce voyage en Afrique du Nord, où il a passé 6 mois, c'est vrai, un voyage qui a été déterminant pour son art, puisqu'il ne peindra plus de la même manière à son retour. C'est un voyage qui a été décidé assez rapidement par des connaissances qu'il avait en fait à l'opéra lors d'une rencontre et ça se décide assez rapidement et il prépare ses affaires. C'est lui qui paye son voyage en fait. Il n'est pas compris dans la mission diplomatique du duc de Mornay. Il est invité mais c'est lui qui paye son voyage et il emporte un certain nombre de carnets de croquis, de quoi dessiner. Il n'a jamais peint pendant son voyage mais il en a ramené quantité de dessins et de carnets de croquis bon, qui sont maintenant très célèbres. Puisqu'on en conserve 4, 3 au musée du Louvre, au département des arts graphiques, et 1 au musée Condé de Chantilly, qui sont très rarement sortis, parce que ils sont considérés comme des trésors nationaux, et quantité de dessins qui, des fois, proviennent de carnets démembrés qui ont été vendus au cours des années. Mais c'est vrai que tout ce qu'il a récolté, il le réutilise par la suite. C'est un voyage, il ne va plus jamais concevoir la lumière de la même manière. Il peindra, enfin, jusqu'aux œuvres de ces dernières années, il y a des réminiscences d'Afrique du Nord. Il y a une sorte de synthèse, c'est toujours intéressant, on le voit dans la lutte de Jacob et de l'Ange à Saint-Sulpice. Il y a vraiment une synthèse entre une certaine lumière, des choses qu'il a vues en Afrique du Nord, parce qu'évidemment, en Afrique du Nord, ça a été un grand étonnement pour lui. Et il croit d'ailleurs retrouver l'Antiquité. Il trouve les Marocains d'une grande noblesse avec leurs vêtements. Et quand on feuillette les carnets de croquis, on est étonné de l'intérêt de Delacroix pour les habits, les détails vestimentaires. Il va représenter des harnachements de chevaux de façon très précise ou des vêtements. Il a plutôt eu accès à la communauté judéo-marocaine. Les femmes ont des habits très particuliers et il va dessiner jusqu'à l'envers de leurs vêtements, les chemises, les manches qui se rattachent par derrière. carrière de façon très précise. Et ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est qu'il ramène un certain nombre de textiles d'Afrique du Nord, dont nous conservons une partie, que nous exposons quelquefois selon certains thèmes d'accrochage. Donc vraiment, Delacroix avait un intérêt particulier pour les détails vestimentaires. Donc ce voyage sera vraiment très important pour son art. Toute la vie il s'y référera. Et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'il a toujours le désir de consigner les choses en faisant des dessins ou en écrivant son journal pour ne pas oublier. Ça, c'est un aspect chez cet homme qui est assez intéressant. Il commence son journal tout jeune, un an après la mort de sa maman, en 1824, et il dit « c'est un désir de ne pas oublier ». Alors le journal, on ne va peut-être pas rentrer dans les détails, il y a eu des périodes d'interruption, il le reprend plus tard. Même dans le journal, à quoi était-il destiné? Il semblerait que lui-même ait pensé à le publier. C'était peut-être pas un journal si intime que ça, mais il y avait cette volonté de ne pas oublier. Et les croquis qu'il réalise lors de son voyage, quelquefois, c'était pas toujours facile parce qu'on peut pas forcément dessiner sur son cheval. Donc il dessinait rapidement dans des situations inconfortables, et on le sait parce qu'il a écrit à des amis, et on a des lettres de son voyage qu'il envoie d'Afrique du Nord à certains amis, où il dit que de retour, il porte la couleur, de retour à la tente, il porte la couleur. Il fait des rôles d'aquarelle et il note de toute façon les couleurs, tel blanc sur tel endroit. Donc ce sont des croquis assez précis qui sont faits, qu'il emmagasine en fait pour ne pas oublier.
Alors dans ce musée, nous trouvons bien entendu beaucoup d'œuvres, beaucoup de beaux objets. Revenons à la peinture, notamment à la Madeleine, un portrait qui a fait beaucoup parler. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu ?
Oui, la Madeleine, c'est une œuvre que Delacroix a exposée au Salon de 1845 et que Baudelaire a beaucoup admirée. Il a écrit de belles pages dessus. C'est un tableau assez étrange. Là aussi, le sujet, si ce n'était le livret du Salon, on n'aurait pas forcément identifié Madeleine. C'est une femme allongée avec une longue chevelure un petit peu rousse qui a les yeux mi-clos. On ne sait pas si elle est morte, si elle est en pâmoison, si elle dort. Alors, il semble qu'elle soit dans une grotte. On a une petite échappée vers un paysage, mais il faut vraiment déjà regarder l'œuvre attentivement. C'est une œuvre un petit peu... qui a pu choquer certains contemporains. Elle est très sensuelle, en fait, très sensuelle. Si ça n'avait pas été Delacroix qui l'avait qualifiée de Madeleine, on aurait pu penser que ça pouvait être l'allégorie de quelque chose. C'est une œuvre assez étrange. On dit quelquefois la Joconde du musée, parce que c'est un type de femme. C'est une œuvre où on ne peut pas passer devant sans la regarder. C'est le type d'œuvre qui interpelle lors de la visite d'un musée. Donc, elle est en permanence exposée à un endroit de choix. Exposée au-dessus d'un secrétaire, qui est un des rares mobilier qui nous soit parvenu de Delacroix, puisque Delacroix a stipulé par testament qu'à sa mort, tout soit vendu aux enchères. Donc, c'est pas comme Gustave Moreau qui a voulu que tout soit légué tel quel. Delacroix a souhaité que tout soit éparpillé. Alors, il a légué un certain nombre de choses à des proches, notamment à sa gouvernante Jenny Le Guillou, à qui il lègue une somme importante, de quoi bien vivre après sa mort, et un certain nombre d'objets, il le dit... Elle pouvait se choisir de quoi se constituer un appartement convenable dans son appartement, dans son propre appartement. Il lègue d'autres choses à des amis comme Georges Sand et son légataire universel était Achille Piron, qui était un ami d'enfance. Delacroix a été réputé pour être très fidèle en amitié. Il a eu un certain nombre de camarades qu'il a connus au lycée Louis-le-Grand et il a gardé toute sa vie des amitiés, alors plus ou moins suivies selon les périodes. Mais Achille Piron était l'un de ses grands amis et qu'il a nommé légataire universel. Il le dit lui-même, il ne savait pas très bien ce qu'allait donner la vente de ses œuvres une fois retirés tous les legs. Il ne savait pas très bien si la vente de ses œuvres allait suffire. Achille Piron avait une fortune personnelle, donc il est à l'abri de besoins, donc il le désigne comme légataire universel. Il se trouve que la vente de Delacroix, donc Delacroix est mort le 13 août 1863, la vente de ses œuvres a duré toute une semaine, en février 1864, et elle a défrayé la chronique. Ça a été un grand succès. On a découvert un Delacroix dessinateur, parce que l'on connaît, et encore maintenant, exemple, plutôt le Delacroix peintre, coloriste. On connaît assez mal son œuvre de dessinateur, c'est celle que l'on voit le moins également, qui est le moins exposée. Et Delacroix, finalement, c'est un grand dessinateur, il a dessiné toute sa vie. Il y avait quantité de dessins, plus ou moins aboutis, avec des techniques très diverses. Et il faut regarder, souvent au musée, on expose un très très beau pastel qui s'intitule Le Nègre au turban, qui est à la fois un pastel très rapide par certains endroits et très abouti avec les ombres rouges du turban qui se reflètent sur la peau sombre du personnage. Il excelle dans toutes les techniques, aussi bien à l'encre qu'au crayon, qu'à l'aquarelle ou au pastel. On expose actuellement un certain nombre d'études de ciel. Bon, au moment où il reçoit la commande de la galerie d'Apollon du musée du Louvre, où il devait compléter le décor de Lebrun, il décide donc de traiter le char d'Apollon. Et là, il s'intéresse au ciel, aux effets de la lumière sur le ciel, au soleil se couchant. Donc on a un certain nombre d'études de ciel, souvent au pastel, qui sont assez intéressantes, qui montrent que Delacroix dessinait en plein air. Il ne peignait pas, on n'en est pas encore là, en plein air. Mais il dessine en plein air, bien avant l'école de Barbizon. Il a cet intérêt du paysage, des choses de la nature. Et dans son journal, on a des passages assez lyriques sur des choses de la nature, le combat de plusieurs fourmis qu'il observe pendant de longues minutes.
Alors, ce musée, aujourd'hui, que devient-il ? Qu'est-il devenu toutes ces années ? Je crois qu'il appartient aujourd'hui à la Société des Amis de Delacroix. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
Alors, le musée Delacroix, donc Delacroix a voulu que tout soit vendu aux enchères. Il louait cet appartement et à sa mort, c'est finalement la société Saint-Vincent-de-Paul qui louait l'appartement mitoyen, qui a loué l'appartement de Delacroix et qui l'a occupé pendant de nombreuses années. Et dans l'atelier de Delacroix, elle avait organisé sa salle de réunion. Donc finalement, l'appartement n'a pas été trop modifié. Ça a été jusque dans les années 1928, où alors le bruit a couru qu'il était question de détruire l'atelier dans le jardin et d'y construire un garage. Alors là, il y a eu un grand mouvement, plusieurs personnalités assez influentes se sont rassemblées sous l'égide quand même de Maurice Denis, qui est un grand admirateur de Delacroix, qui a été longtemps donc le président de cette société des amis d'Eugène Delacroix qui s'est constituée. Parmi les membres du bureau, il y a des noms comme André Joubin, qui était donc directeur de la bibliothèque d'art et d'archéologie, qui était un grand historien, qui a publié un certain nombre d'ouvrages sur Delacroix essentiels, dont la correspondance, le journal. Et Raymond Escolier, qui était conservateur au Petit Palais, qui a écrit aussi beaucoup d'ouvrages essentiels sur Delacroix. Il y a eu de grands collectionneurs également, comme David Veil et la comtesse de Varesquiel, qui a été trésorière pendant de très nombreuses années au sein de la société. Donc cette société d'Eugène Delacroix s'est constituée avec aussi parmi les membres fondateurs le docteur Viau, qui était un grand collectionneur, et le baron Vita également, qui est important pour l'histoire du musée. Donc elle s'est constituée et a tout fait pour préserver l'atelier de la destruction. Ils y sont parvenus et ils ont loué l'atelier. Donc le premier musée Delacroix finalement a été inauguré, c'était l'atelier de Delacroix, où on avait exposé un certain nombre d'œuvres qui étaient des prêts des sociétaires, les sociétaires de cette société des musées, enfin d'Eugène Delacroix, pardon. Donc un certain nombre de sociétaires qui étaient des sociétaires de la société d'Eugène Delacroix. Et d'ailleurs, c'est un musée qui a été inauguré par le président Lebrun, donc ça, c'était quelque chose d'important à l'époque. Et deux ans après, en 1934, la Société des Amis d'Eugène Delacroix a loué l'appartement et on a eu le musée tel qu'il est actuellement. Donc c'est un musée qui est un musée associatif à l'origine, pendant de nombreuses années, qui a été animé. La Société des Amis d'Eugène Delacroix a organisé un certain nombre d'expositions qui ont eu un certain nombre de succès, des concerts avec des interprètes assez célèbres, puisqu'il y a eu quand même François, Richter, qui sont venus interpréter au piano un certain nombre, un programme donc dans l'atelier. Donc une société influente et assez dynamique qui a fait vivre les lieux pendant de nombreuses années. En 1951, un nouveau danger se profile. Le propriétaire de l'immeuble du 6 de la rue Fürstenberg est décédé sans descendant et a légué ses biens au sanatorium de Paimbron, près de Nantes, qui soigne les personnes tuberculeuses. Et le sanatorium décide de vendre aux enchères par lot les différents appartements de l'immeuble. La société, à l'époque, s'était constituée une collection d'objets, d'œuvres, de peintures, de dessins, de gravures de Delacroix et de son entourage. et a essayé de trouver un subterfuge pour se porter en chérisseur au moment de la vente aux enchères. Elle a cédé une partie de ses collections, surtout les tableaux et dessins de Delacroix, à l'État. Cette époque-là, c'était un secrétariat d'État aux affaires culturelles, pour avoir de l'argent pour acheter les lieux. Ce qui finalement a pu se faire. Et en 1954, elle donne officiellement à l'État l'appartement et l'atelier à charge pour l'État, sous la condition que l'État fasse un musée ouvert au public. Petit à petit, donc, la Société des Amis d'Eugène Delacroix a perdu son rôle au sein de la gestion du musée, et c'est un musée qui est devenu national. Alors les choses sont un petit peu lentes à arriver, mais le décret est sorti en 71. C'est un musée qui continue à partir du noyau initial de collection de la Société des Amis d'Eugène Delacroix, qui continue à s'enrichir régulièrement chaque année en fonction des opportunités.
Madame Adam, est-ce que Delacroix était un romantique? Parce qu'il est très vu comme un romantique.
Oui, effectivement, on trouve toujours le qualificatif de romantique avec Delacroix. On ne peut pas dire qu'il n'était pas romantique, mais ce qui est toujours intéressant de noter également, c'est déjà Delacroix se disait un pur classique. Et ça, il le dit à plusieurs reprises. C'était son désir d'être reconnu et d'être élu à l'Institut. Donc il s'y présente à plusieurs reprises et il est finalement élu à l'Institut le 10 janvier 1857, au bout de la 8e fois. Et c'est vrai que ce qui l'a beaucoup déçu, c'est de ne pas pouvoir enseigner. En principe, quand on était élu à l'Institut, on avait le droit d'enseigner aux Beaux-Arts. Et dès le lendemain de son élection, il décide de rédiger un dictionnaire des Beaux-Arts. Comme il savait vraisemblablement qu'il ne pouvait pas enseigner, il voulait laisser sa trace. Et il commence son dictionnaire de Beaux-Arts par ordre alphabétique. Il y a plusieurs mots qui sont référencés où il explique un peu sa façon de voir les choses en peinture et en dessin. Les ombres, le feuillage, enfin il y a différentes entrées. Il cherchait certainement à laisser des traces dans la postérité. Ça, c'était quelque chose auquel il n'était pas insensible.
Alors, pour terminer, aujourd'hui, donc, le musée vit et revit grâce à des causeries, grâce à d'autres actualités. Pourriez-vous nous en parler ?
Oui, depuis cette année, la Société des Amis Eugène Delacroix, qui a pris le relais de la Société des Amis d'Eugène Delacroix, organise ce que l'on a appelé des causeries, parce que ce sont en quelque sorte des conférences où on a souhaité qu'il y ait un échange entre le public et l'intervenant. Il y a différents sujets qui ont été proposés. La prochaine est le 10 mai avec Madame Legré-Zedlin, qui est une historienne qui a écrit de nombreux ouvrages et qui a édité assez récemment un livre qui s'appelle « Émoi romantique à La Rochelle », mais dans lequel elle parle assez longuement de Louise Rank-Babu, qui est une femme peintre, quasi contemporaine de Delacroix, qui a été quelque temps dans l'atelier de Delacroix, qui a entretenu des amitiés avec Delacroix, notamment une correspondance assez élaborée jusqu'à la mort de Delacroix. D'ailleurs, Jenny Le Guillou lui a envoyé quelques souvenirs à la mort de Delacroix, dont on a pu récemment avoir un témoignage, puisqu'on a eu un verre en cristal de Bohème qui a été donné il y a 2 ans maintenant au musée. Donc Louise Rank-Babu, qui était une femme ayant eu un destin assez original et dont Madame Legré-Zedlin va parler le 10 mai. On a également, suite à la parution d'une pièce de théâtre écrite par Florence Camoin, qui s'intitule « Un 15 octobre, les lettres brûlées », qui a été publiée aux éditions Elema la fin de l'année dernière, où est évoquée la relation de Joséphine de Forget, qui était une cousine de Delacroix, une cousine lointaine. Relation d'abord amoureuse, après amicale, qui a duré toute la vie, qui a fait l'objet également d'un échange de correspondance. Hein. Delacroix, c'est un homme, on l'a vu, qui écrit beaucoup. Il a écrit son journal et on a une correspondance assez dense qui nous apporte un certain nombre de renseignements très, très précieux sur l'homme, même s'il y a encore pas mal de zones d'ombre et qu'on n'a pas fini les recherches sur cet artiste, mais c'est un artiste tellement riche. Donc, cette pièce de théâtre évoque les relations de Joséphine de Forget et Delacroix, 5 ans après la mort de Delacroix, à travers le personnage d'un jeune peintre, admirateur de Delacroix, qui se rend sur la tombe de Delacroix et qui trouve une dame d'un certain âge qui se recueille et qui amène un bouquet magnifique, plein de couleurs, qui dépose ce bouquet sur la tombe de Delacroix, donc au cimetière du Père-Lachaise. S'engage un dialogue, je ne vais pas vous révéler l'histoire de la pièce, mais c'est une pièce qui fonctionne avec le le personnage de Delacroix qui est en filigrane, bon, qui à l'époque est décédé, mais il y a des extraits de sa correspondance ou du journal qui témoignent de l'importance de son art et comment il considérait la peinture. On a quatre soirées qui sont le jeudi 24 mai, le vendredi 25 mai, le jeudi 31 mai et le vendredi 1er juin à 20h. Donc il faudrait téléphoner au musée pour faire les réservations.
Alors un très beau musée, une très belle maison, Eugène Delacroix a vécu de très belles années ici, il a sans nul doute laissé une trace fabuleuse dans le patrimoine français. Merci beaucoup Madame Adam de nous avoir fait passer un peu de son temps en sa compagnie et un peu de votre temps aussi. Et je rappelle à nos internautes qui peuvent venir visiter ce musée à leur gré, mais aussi télécharger cette émission gratuitement sur notre site canalacademy.com.